Vous écoutez France Culture.
Et lundi d'histoire, Philippe Le Villain. Bonjour à tous et à toutes. Renan fut l'un des plus vastes génies de ce temps. Linguiste, épigraphiste, historien, philosophe, il fut la plus grande lumière du XIXe siècle. La probité de son esprit égalait la vigueur de son intelligence. Il servit la science comme elle veut être servie, avec un absolu dévouement. Il consacra sa vie entière à la vérité. Élever un monument à Roman, c'est l'élever à la science et à la sagesse. Ce texte est extrait d'Anatole France et il présente le colloque organisé par le Collège de France sous la direction d'Henri Laurence. Bonjour.
Bonjour.
En 2012, à l'occasion du 120e anniversaire de la mort de Renan au Collège de France, professeur au Collège de France.
Non, il est mort au Collège.
Au Collège de France. Et du 150e anniversaire de sa célèbre leçon inaugurale du Collège de France, où il rappela l'humanité et même se fonda sur l'humanité de Jésus. C'est donc un livre très important, qui d'ailleurs est un livre collectif, dont je ne vais pas énumérer les participants UP, qui est l'objet de la discussion et du débat de cet après-midi. Donc pour en parler, autour de Henri Laurence, dont je rappelle aussi le dernier livre, « Terrorisme, histoire et droit » en collaboration avec Mireille Delmas-Marty au CNRS, qui fera l'objet d'une émission plus tardive, et le fait que vous êtes quand même spécialiste, comme vous dites, un de vos livres, « Histoire orientale », en gros. Donc pour en parler, avec nous aujourd'hui, Perrine Simon-Naoud, bonjour.
Bonjour.
Vous avez participé d'ailleurs au volume sur Ernest Renan, « La science, la religion, la République », et vous avez écrit « Renan Passeur ». Un article magnifique et compliqué de la science des religions à l'histoire des religions, sur lequel d'ailleurs on aura l'occasion de parler, je veux dire, le passage de l'histoire de la science des religions. Voilà.
J'essaierai d'être plus clair.
Je n'ai pas dit ça. Je crois que la science stipule véritablement qu'on soit soi-même. Et enfin, Philippe Boutry, merci d'être là. Philippe Boutry,
bonjour.
Vous êtes président de l'Université de Paris à Port-en-Sorbonne. Vous êtes connu parce que vous venez assez régulièrement, autant que faire se peut, à l'émission. Vous êtes spécialiste éminent de l'histoire religieuse et politique du 19e siècle. Bon. Je ne vais pas citer tous vos ouvrages, ce serait trop long. Nous allons essayer de prendre le livre dans son sens chronologique établi par la publication, la science, la religion, la politique. Peut-être en prenant d'abord la religion, parce que, et on va revenir sur la vie de Renan, qui n'est pas une vie ordinaire, c'est un Breton, il est né à Tréguier. Vous y étiez à Tréguier, Pauline Simon-Naoud, récemment.
C'est vraiment un monde, c'est le milieu breton, avec tout ce que ce milieu comprend à la fois de religiosité, de fraternité, de celtitude aussi. Et Renan a été, dans ses jeunes années, à la fois inspiré par les paysages de Bretagne et par les légendes qui y régnaient. Donc ces premières années qui se passent à Tréguier, où il est très vite remarqué par les professeurs qui font son éducation première, dans un milieu qui est un milieu pauvre, puisqu'il vit avec sa mère, son frère et sa sœur. Sa sœur Henriette, qui l'accompagnera ensuite, absolument. Donc un milieu pauvre, d'où émerge comme ça un esprit à la fois, je dirais, curieux, qui va être attiré évidemment par la science, mais qui va conserver de sa Bretagne natale toute l'imagination et toute la poésie qu'on retrouve jusque dans ses derniers ouvrages.
Oui, Laurence. Donc Renan, ce n'est pas votre tasse de thé, disons, essentielle. Enfin, vous avez pris goût à organiser ce colloque que vous avez très bien dirigé. Il y a une très belle introduction de vous sur la personnalité complexe de Renan, qui est formé, comme il était d'usage souvent dans les familles pauvres, au petit séminaire. Donc d'abord, et qui va aller ensuite au grand séminaire à Saint-Sulpice notamment. Comment vous êtes venu, comment avez-vous perçu finalement, vous qui êtes un orientaliste, ces personnalités celtiques?
Ah bon, écoutez, Renan est pour moi un vieux compagnon de route. D'abord parce que j'avais lu quand j'avais 20 ans les œuvres complètes que j'avais trouvées chez un bouquiniste. Et d'autre part, puisque mes tout premiers travaux de recherche en maîtrise et en troisième cycle portait sur l'histoire de l'orientalisme. Et donc je me heurtais en permanence d'un côté à Édouard Saïd et de l'autre côté à Renan, puisque
voilà la clé du débat.
Renan est l'orientaliste absolu, je veux dire.
Absolument. C'est un celtique qui va chercher les racines du christianisme en Orient. Philippe Boutry.
Oui, ce qui est aussi intéressant chez Renan, c'est que c'est un homme qui a plusieurs vies. Il y a le breton, mais il y a aussi le parisien, puisque à un âge relativement peu avancé, il a 14 ans si je me souviens bien, il est, grâce à un système de bourse ecclésiastique, confronté avec ce qu'on appelait à l'époque la meilleure société parisienne et un très grand éducateur qui est l'abbé Dupanloup, futur évêque d'Orléans et futur adversaire déterminé de Renan, et introduit dans un milieu qui est celui du collège-séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, où sont élevés à la fois les futurs prêtres, mais une partie des élites catholiques de Paris, et ce choc culturel, je crois, a joué un rôle dans sa vie considérable.
Alors, Monsieur Dupanloup, qui sera tellement gallican qu'il ne sera jamais cardinal, puisqu'il il refusera l'infaillibilité, entre autres, et surtout le syllabus, mais dont Renan sera victime en 1863-4, d'ailleurs, qui est le petit résumé qui suit lorsqu'il contacura, enfin, qui condamne en fait le monde moderne. Je résume très rapidement, il faut qu'on passe à autre chose. Mais Monsieur Dupanloup est une grande figure ecclésiastique. Renan n'est pas d'accord avec lui, c'est un des éléments de son détachement de l'Église, quand Monsieur Dupanloup accepte la conversion de Talleyrand. Il y a une anecdote fameuse, vous savez, sur laquelle Talleyrand, sur son lit de mort, a dit à l'abbé Dupanloup, je souffre comme un damné, et Dupanloup l'aurait répondu déjà. Donc, c'est une anecdote assez connue. Donc, c'est très intéressant parce que, on le voit très bien dans tous les actes du colloque, Renan se détache progressivement avec une intelligence qui est en même temps une intelligence choquée. C'est-à-dire que c'est aussi par un mélange de sensibilité et de raison qu'il se détache de la religion, de la foi d'ailleurs. Et non pas la religion.
Il y a deux étapes. Il y a le contact avec un catholicisme qu'il estime mondain, fait de petites dévotions, qui ne correspond pas du tout au catholicisme breton de son enfance, beaucoup plus solennel, beaucoup plus entier. Et puis, il y a le moment intellectuel, c'est-à-dire sa formation au séminaire Saint-Sulpice, où il va se poser des questions d'exégèse qui vont l'amener à quitter l'Église et à perdre la foi.
Il y aura un trait d'union toujours dans sa perspective, c'est que le catholicisme doit être intransigeant pour exister. Et un catholicisme qui ne serait pas intransigeant ne serait plus du catholicisme. À la limite, il en a toujours besoin de cette forme de catholicisme.
Oui, le catholicisme intransigeant peut être un catholicisme politique. Alors, ce n'est pas son cas. C'est un catholicisme dont il cherche la vérité dans les sources et dans le témoignage tout au long de l'histoire. Donc, il me semble, Perrine Simon-Naoui.
Oui, c'est un catholicisme très personnel. Quand vous dites que Renan perd la foi, il me semble que, d'une certaine façon, il ne perd jamais le contact avec la personne du Christ.
Ah ben, il le dit. La foi disparue, le pliant reste.
Absolument. Et ça est ancré, évidemment, dans l'enseignement du catholicisme qu'il reçoit à Saint-Sulpice, du côté des oratoriens, et à l'importance qui est donnée au texte et à l'analyse philologique. Donc c'est en quelque sorte parce qu'il est choqué par les contradictions qu'il, au fur et à mesure où sa science croit, les contradictions qu'il arrive à percevoir et à lire dans les textes sacrés, qu'il va se détacher de la religion et qu'il va finir évidemment par quitter le séminaire pour embrasser la science, mais il va garder tout au long de sa vie en tout cas un esprit religieux et je dirais dans une relation personnelle avec le Christ.
Alors on va écouter un morceau de Souvenirs d'enfance et de jeunesse dans lequel on voit que Renan, je ne sais pas s'il perd la foi, en tout cas il s'éloigne de la foi. Il y a une très belle phrase où il dit « Malheur aussi à la raison le jour où l'étoufferait la religion », qui est un moment très important, c'est dans la vie de Jésus, qui est un livre admirable, qu'il faut absolument lire, ou en tout cas relire le cas échéant, qui est en fait un hymne au christianisme d'ailleurs, en tout cas à Jésus. Évidemment, pour les croyants de l'époque, surtout pour la papauté, on verra à propos de Pie IX, entendre parler de la mère de Jésus avec ses frères, de ses sœurs, du fait que la mère de Jésus sortir dans le désert, etc. Bon, tout ça, c'est une, comment dire, une laïcisation, si j'ose dire, de ce que représente l'Évangile. Donc, dans Souvenirs d'enfance et de jeunesse, c'est un témoignage sur ce qu'il appelle la claricature, qui reste comme un tatouage, comme une marque, et qui est une marque de respect. qui ne correspond pas du tout au visage de l'anticléricalisme que l'on, en général, on fait porter au XIXe siècle à la figure de Renan.
De très bons esprits m'ont quelquefois fait entendre que je ne me serais pas détaché du catholicisme sans l'idée trop étroite que je m'en fie, ou, si l'on veut, que mes maîtres m'en donnèrent. Certaines personnes rendent un peu Saint-Sulpice responsable de mon incrédulité et lui reprochent d'une part de m'avoir inspiré pleine confiance dans une scolastique impliquant un rationalisme exagéré, de l'autre, de m'avoir présenté comme nécessaire à admettre le summum de l'orthodoxie. Si bien qu'en même temps, il grossissait outre mesure le bol alimentaire et rétrécissait singulièrement l'orifice de déglutition. Cela est tout à fait injuste. Dans leur manière de présenter le christianisme, ces messieurs de Saint-Sulpice, en ne dissimulant rien de la carte de ce qu'il faut croire, étaient tout simplement d'honnêtes gens. Ce ne sont pas eux qui ont ajouté la qualification « est des fidés » à la suite de tant de propositions insoutenables. Une des pires malhonnêtetés intellectuelles est de jouer sur les mots, de présenter le christianisme comme n'imposant presque aucun sacrifice à la raison et à l'aide de cet artifice d'y attirer des gens qui ne savent pas ce à quoi, au fond, ils s'engagent. C'est là l'illusion des catholiques laïcs qui se disent libéraux. Ne sachant ni théologie, ni exégèse, ils font de l'accession au christianisme une simple adhésion à une coterie. Ils en prennent et ils en laissent. Ils admettent tel dogme, repoussent tel autre, et s'indignent après cela quand on leur dit qu'ils ne sont pas de vrais catholiques. Quelqu'un qui a fait de la théologie n'est plus capable d'une telle inconséquence. Tout reposant pour lui sur l'autorité infaillible de l'Écriture et de l'Église. Il n'y a pas à choisir. Un seul dogme abandonné, un seul enseignement de l'Église repoussé, c'est la négation de l'Église et de la révélation. Dans une Église fondée sur l'autorité divine, on est aussi hérétique pour nier un seul point que pour nier le tout. Une seule pierre arrachée de cet édifice, l'ensemble croule. Fatalement. Il ne sert non plus de rien d'alléguer que l'Église fera peut-être un jour des concessions qui rendront inutiles des ruptures comme celle à laquelle je dus me résigner et qu'alors on jugera que j'ai renoncé au royaume de Dieu pour des vétilles. Je sais bien la mesure des concessions que l'Église peut faire et de celles qu'il ne faut pas lui demander. Jamais l'Église catholique n'abandonnera rien de son système scolastique et orthodoxe. Elle ne le peut pas. C'est comme si l'on demandait à M. le comte de Chambord de n'être pas légitimiste. Il y aura des scissions, je le crois plus que jamais, mais le vrai catholique dira inflexiblement « s'il faut lâcher quelque chose, je lâche tout ». Car je crois à tout, par principe d'infaillibilité. Et le principe d'infaillibilité est aussi blessé par une petite concession que par 10 000 grandes. De la part de l'Église catholique, avouer que Daniel est un apocryphe du temps des Maccabées serait avouer qu'elle s'est trompée. Si elle s'est trompée en cela, elle a pu se tromper en autre chose. Elle n'est plus divinement inspirée.
Philippe Boutry.
Ces lignes sont tout à fait extraordinaires. À 150 ans de distance environ, on peut mesurer tout ce qui sépare les catholiques d'aujourd'hui de la conception que se fait Renan du catholicisme, qui est une conception à la fois intransigeante et d'une certaine manière archaïsante. En particulier, l'on a appris depuis en particulier Loisy, mais d'autres aussi, à distinguer le Jésus de l'histoire du Christ de la foi. Il n'y a aucune distinction de ce type chez Renan. Mais ce qui est plus important, c'est peut-être ce que Renan ne dit pas. On connaît la phrase très célèbre qui va d'ailleurs faire scandale en 1862 au Collège de France, Jésus, cet homme incomparable. Mais on oublie la fin du paragraphe. Jésus fonda la religion éternelle de l'humanité, la religion de l'esprit dégagée de tout sacerdoce et de tout culte. C'est une proposition religieuse qui n'a plus rien de chrétien, même si Vous aviez raison, Périne, de rappeler qu'il y a un lien personnel avec la figure de Jésus. Une religion de l'esprit et non pas du cœur, dégagée de tout sacerdoce, c'est-à-dire sans église, et de tout culte, c'est-à-dire sans expression de cette foi. On est bien dans une autre proposition religieuse.
C'est Périne Thibandeau.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et j'essaierai de compléter en disant que très souvent, quand il s'agit de Renan, on a quitté une religion pour tomber dans une autre. Puisque pendant très longtemps, en tout cas une bonne partie du XXe siècle, on a lu Renan comme un positiviste. On l'a lu comme un positiviste en montrant que le texte qu'il écrit en 1848 et qu'il ne publiera que 2 ans avant sa mort en 1890, « L'avenir de la science », finalement date de ces années où, rompant avec un système et avec un dogmatisme, comme le dit le texte qui vient d'être lu, il opte pour un autre système. En réalité, Renan n'est pas plus positiviste qu'il ne restera attaché au dogmatisme chrétien. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est justement dans cette idée d'une religion de l'esprit qu'il fonde, à mon sens, dans une philosophie du langage, puis qui se développera en science des religions pour devenir finalement une histoire des religions, qu'il va bâtir ce qui, à son avis, est la grande aventure de l'humanité, à savoir l'histoire de l'esprit humain.
Henri Laurence.
Il y a deux dimensions, je crois, chez lui. D'un côté, il y a presque une exaltation mystique quand il arrive, par exemple, en Terre Sainte, quand il est sur les pas de Jésus, et ainsi de suite. Et puis, il y a une extraordinaire ironie. Il est toujours un homme de l'ironie, du léger décalage, ce qui fait qu'il ne peut jamais vraiment totalement s'engager. D'ailleurs, les Républicains, Larousse, les autres, lui reprocheront ce manque d'engagement.
Alors, Périne Thibandeau, on revient au fond pour avancer un peu dans une œuvre complexe qui est évolutive et en même temps granitique par certains moments, parce qu'elle est quand même scandée par des livres fondamentaux. Et la vie de Jésus est quand même une grande étape en 1863. Vous avez tout à l'heure, d'ailleurs c'est l'objet de votre contribution, de la science des religions à l'histoire des religions. Alors ça passe effectivement par le langage, les langues sémitiques, le retour aux sources, si l'on veut, et la discussion de la fragrance que représente la langue à travers sa transmission. Et si j'ose dire, les transmutations que cette langue subit au fil des siècles à travers des langages, des mentalités tout à fait différentes et son expansion dans le monde avec ce caractère universel qui la caractérise.
Oui, loin d'être un positiviste.
Alors vous dites passeur, c'est important. Positif, ça renvoie à Auguste Comte, en gros, donc le positivisme, c'est-à-dire aux trois âges de l'humanité.
Oui, mais qu'il critique vigoureusement.
Qu'il critique, oublié, ça, tout à fait. Donc l'âge théologique, l'âge métaphysique et l'âge positiviste. Voilà, tu veux dire, le détachement de la superstition vers la raison. Je résume très grossièrement, c'est juste pour clarifier les choses. Pierre Simonaud.
Les étapes de Renan, les années passées au séminaire, sont les années où il découvre la science allemande. Non seulement la théologie, mais aussi l'étude critique des textes et la philologie. Il apprend d'ailleurs pour ça, exprès l'allemand, et commence à pouvoir lire un certain nombre de théologiens qui ont publié soit sur la personne du Christ, comme Reimarus, soit des grammairiens. Il travaille beaucoup à partir du vocabulaire de Gesenius. Et donc, Renan a joué ici un rôle essentiel de passeur, puisque cette science des textes, qui n'était pas une science française, entre avec lui petit à petit dans le paysage scientifique. Il n'est bien sûr pas le seul. On trouve d'ailleurs au Collège de France des gens comme Sylvestre de Sacy, comme Eugène Burnouf, qui eux aussi ont une science rigoureuse des textes. Mais c'est cette critique philologique donc, qui va permettre à Renan d'insuffler, je dirais, dans les études religieuses en France, puisque son sujet reste la science des religions, tout le paysage intellectuel allemand qui, jusqu'ici, était non seulement peu fréquenté en France, mais même volontairement occulté, puisque en France, on était dans une tradition qui était celle des belles-lettres, tradition classique, du beau langage, du beau parler, et que la rigueur des textes passait au second plan. Donc, si vous voulez, Renan a d'abord joué ce rôle de passeur, je dirais, de la science allemande venue influencer le développement, notamment de l'orientalisme en France.
Philippe Boutry.
Peut-on cependant laver Renan de tout, de toute, toute tâche positiviste? Je pense que, d'une part, il y a en effet tout ce que vous venez de dire, mais il y a aussi un livre qui est important, qui est L'avenir de la science, un livre de jeunesse.
Deux ans avant sa mort, non ?
Mais c'est un livre qui est écrit en 1948 et qu'il publie très tardivement.
Qui est repris.
Et il me semble, même si il faut sans doute imputer les passages les plus abrupts de ce livre, un peu positiviste, à une sorte de violence de la sortie du christianisme dans cette époque, deux idées. La première, c'est quand même l'idée de progrès, qui est extrêmement présente chez Renan. Et la seconde, c'est justement, vous l'avez dit, l'idée de science, qu'il est possible de faire une science des religions. Et pour Renan, pour être capable d'écrire cette science, il faut y avoir cru et ne plus y croire. Et cette position le place quand même dans une position intellectuelle qui, sans tout à fait correspondre au positivisme d'un Comte qu'il critique, reste quand même une position de décalage avec des formules parfois extrêmement dures, notamment par rapport au christianisme. Barrès s'en était beaucoup amusé dans son écrit qui s'appelle « 8 jours chez Monsieur Renan ». Barrès n'avait jamais passé 8 jours chez Monsieur Renan, mais le dernier mot est resté célèbre. « Ah, que la mort de Monsieur Renan sera intéressante ».
Henri Laurence.
Oui, Renan, on peut dire, si on essaye de diviser son œuvre, à une première part, une première dimension qui est la philologie, donc c'est tous ses essais sur l'histoire des langues, en particulier des langues sémitiques, et puis il y a le tournant de 1860 dans lequel il se lance dans les études historiques et les deux grands môles de son œuvre historique seront l'histoire des origines du christianisme dans la vie de Renan et en quelques... La vie de Jésus est le premier volume, et puis l'œuvre finale et en partie posthume, l'histoire du peuple juif. Mais en même temps, il est essayiste très tôt. Et si l'avenir de la science n'est pas publié avant 1890, il en publie déjà de très larges extraits dans les années 1849-1851. Ensuite, il y a un peu de censure, on est sous le Second Empire, système clérical, etc. Et nous avons donc un homme qui, à la fois, travaille dans le plus précis de la science, dans le plus petit détail philologique, mais qui en même temps voit dans la philologie le moyen de dresser une carte de l'esprit humain. Je veux dire, on ne pourrait trouver d'équivalent au XXe siècle que Lévi-Strauss, avec le structuralisme, comme ambition, en tout cas. Et puis, peut-être pas le mondain, mais quelqu'un qui veut déjà s'installer dans le débat intellectuel de son temps, qui publie d'abord dans une revue qui s'appelle « La liberté de penser », qui est significatif. Et puis ensuite, c'est la Revue des Deux Mondes, qui est quand même le grand organe littéraire de la bourgeoisie française de l'époque, de la bourgeoisie libérale.
Mais il tient sa lourde, non ? Il est l'objet d'une caricature, je crois, dans un roman de Martin Dugard, où on le présente comme une espèce de Bouddha qui est assis au milieu du salon et vers lequel on va chercher des aspirations quasiment d'augure. C'est sans importance, c'est pour corriger, enfin, non pas corriger, Henri Laurence, mais pour ajouter aux nuances sur le côté mondain et parisien, effectivement. Mais alors, vous parlez des histoires des origines du christianisme. Ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, c'est une série de volumes. Je veux dire, c'est pas, La vie de Jésus, c'est le premier volume, il faut le dire aux auditeurs, aux auditrices. Mais aussi, c'est quand même la combinaison de ce goût pour la philologie avec la curiosité historique, ce que vous venez de dire. Donc, c'est pour ça qu'il doit aussi voyager. Mais alors, avant qu'on examine ça, qui est un point important, la vie de Renan, qui est une mutation vers ce qu'on peut appeler l'espace méditerranéen de la création, il y a des rapports tumultueux aussi avec le Saint-Siège. Ce n'est pas rien, parce que je ne sais plus qui dit à Renan au moment de l'Encyclicotacura et de Syllabus, toi aussi tu as ton paquet, vous avez aussi votre paquet. Philippe Boutry, vous, qui est, si je veux dire, un gallican ultramontain, comme je suis d'ailleurs.
Oui, les rapports de Renan tout au long de sa vie avec le Saint-Siège, c'est avec les papes, sont exécrables, ce n'est pas un secret, même si une contribution très intéressante de Jean Balcou montre encore une fois qu'il y a toujours chez Renan ce décalage dont parlait Henri Laurence, cette ironie. Il se fait présenter au pape et il y parvient. Il est vrai qu'il est encore jeune. Zola n'y parviendra pas. Il avait essayé la même chose avant Rome. Mais très vite, Renan fait figure, à cause du scandale que suscite la vie de Jésus en 1863 et sa apparition, d'adversaire, je dirais, central de l'Église catholique et de la vérité des évangiles. On en a un bel exemple dans la correspondance d'Edgar Quinet, où l'un de ses amis lui écrit des campagnes de lin, qu'il voit la vie de Jésus, la version populaire, car il existait une version populaire, dans les mains de paysans. Et il conclut, à propos de ces paysans de la Bresse, que verront-ils, que pourront-ils lire dans le livre de Renan ? Je ne sais. Mais il leur restera que Jésus n'est pas Dieu, que le curé les trompe s'il ne se trompe pas. Et cette analyse me semble tout à fait judicieuse. Elle montre que la vie de Jésus a constitué un véritable tournant dans l'histoire religieuse de la France, qui correspond bien d'ailleurs au tournant des années 1860. Ce n'est plus seulement le cléricalisme qui est attaqué, c'est le christianisme en lui-même. Et la science des religions que Renan voudra faire monter en puissance est une réponse à cette crise.
Périne Simon-Daoun.
Oui, la science des religions qu'il a d'ailleurs lui-même...
On dit des religions parce que ce n'est pas seulement le christianisme.
Non, bien sûr.
Il s'occupe aussi du bouddhisme même.
Il s'agit non seulement des religions monothéistes, mais aussi du bouddhisme, voilà. De tout ce qui concernait l'Inde védique, et puis bientôt tout ce qui va jusqu'à la Chine et jusqu'au Japon. C'est un domaine que Renan commence à travailler très très tôt, dès qu'il sort du séminaire, on pourrait dire déjà dans les années 1800, à partir des années 1845. Et je reviens tout à l'heure à ce que vous disiez sur l'avenir de la science. Il me semble qu'il y a à la fois dans l'avenir de la science, donc cet engagement pour la science qui sera celui de Renan à la fin des années 1840 et tout au long de sa vie, mais que les côtés peut-être les plus mystiques ou les plus enthousiastes ou les plus idéalistes que vous soulignez doivent être rapprochés de ce qui se passe en France en 1848. Parce que vous parliez tout à l'heure du Renan parisien, il y a des très très belles pages de Renan sur la révolution de février 48 et sur la révolution de juin 1848. Et on s'aperçoit de l'évolution de Renan d'ailleurs entre les deux révolutions, révolution qui va éclairer son attitude politique à partir de 1870, où, comme le montre très bien un article de Pierre Rosanvallon dans le colloque, une communication de Pierre Rosanvallon, Renan est certes du côté de la République et peut-être moins du côté de la démocratie et des masses.
On lui reprochait dans un article, il est dit que Renan, on lui reprochait, je lis, une certaine condescendance à l'égard du peuple et son sentimentalisme conservateur, pire son génie jésuitique. Or, il détestait les jésuites, puisque par définition, les sulpiciens, si j'ose dire, inculquaient une culture anti-jésuite, par définition. Donc, alors, c'est extraordinaire ce mélange, je dirais, de subtilité qui fait qu'il adapte à sa propre sentimentalité une réaction vis-à-vis du peuple. Est-ce que ce n'est pas la réaction de quelqu'un qui est tellement savant, tellement érudit, de l'intellectuel, si j'ose dire, qui n'arrive pas à comprendre ce que c'est que, si j'ose dire, un peuple sans science, Philippe Boutry?
Il y a un paradoxe de Renan, Henri Laurence le soulignait d'emblée, quelqu'un qui vient du peuple, qui a eu une enfance pauvre, qui connaît très bien le peuple de pêcheurs et de paysans de Tréguier, dont on a parlé au tout début, qui s'en extrait par la science...
Par son génie personnel,
et qui sait construire sa vie à travers ses œuvres scientifiques, puis la reconnaissance en particulier professorale, mais aussi Montaigne, qui est la sienne, et qui, en même temps, éprouve une sorte de fascination pour la croyance populaire et un rejet, parfois même un dégoût de savant pour tout ce que cette croyance populaire lui inspire en tant que critique des religions. Et je pense qu'une des richesses, en particulier des souvenirs d'enfance et de jeunesse, vient de cette double appartenance qu'il n'a en quelque sorte jamais renié, comme il n'a jamais renié la part du prêtre qui était en lui.
Il y a un élitisme profond chez Renan, à la fois, enfin un élitisme d'esprit, c'est pas un héritier, c'est le contraire d'un héritier, mais en même temps...
Héritier fait allusion à la classification célèbre de Bourdieu sur les héritiers et les oblats. Les héritiers sont des gens qui ont, je veux dire, un patrimoine intellectuel et social. Les oblats sont ceux qui, comme Renan, sortent du peuple, terme emprunté d'ailleurs, je dirais, au vocabulaire religieux. Henri Laurence.
Mais en même temps, donc ce n'est pas un héritier, mais c'est un aristocrate de la pensée. Et à la fois son aristocratisme individuel renvoie à une philosophie de l'histoire où l'histoire de l'humanité est le fait de petites aristocraties qui conduisent le monde, qui font progresser la civilisation. D'où cette angoisse permanente de Renan dans ce 19e siècle, c'est de voir cette aristocratie de la libre pensée risquer d'être écrasée par une nouvelle montée du cléricalisme, comme il a pu le vivre en particulier dans les premières années du Second Empire. Et finalement, pour lui, la Troisième République, ce sera la réconciliation entre un peuple devenu anticlérical et cette aristocratie. Alors il y a une perte de valeur, mais il y a une affirmation d'avenir.
Tout à fait. Et je crois qu'un des moments les plus intéressants de la pensée de Renan, c'est son moment politique qui est extrêmement bref, qui se situe après le désastre de 1870, où il doit en quelque sorte affronter la question du suffrage universel. Et cette question le heurte parce qu'il a vu les désastres du suffrage universel, il les a vus en 48, il les voit à nouveau par l'élection de 1871. C'est, Pierre-Rosan Vallon le montre très bien, foncièrement un orléaniste, c'est-à-dire un homme qui voudrait voir des élites à la fois intellectuelles, et chez Renan l'intellectuel prime toujours sur le social, diriger le pays. Et en même temps, c'est le même Renan qui va devenir une sorte de dieu de la Troisième République dans une formule extrêmement ambiguë et qui va avoir cette formule qui, elle, reste totalement vraie en disant qu'une nation est un plébiscite de tous les jours, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur le suffrage universel de l'ensemble des Français en faveur de leur appartenance à la France elle-même. Et là, on retrouve encore le Renan partagé, le grand intellectuel élitiste et l'enfant de la campagne bretonne.
Et là, on parle déjà des grandes conférences des années 1880, qui sont d'ailleurs, qu'est-ce qu'une nation reste évidemment un texte immortel, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de l'identité française sans parler du texte de Renan, mais aussi l'islamisme et la science, le judaïsme comme race ou comme religion. C'est-à-dire, ces textes qui arrivent pratiquement dans une rafale à quelques mois de distance, restent pour nous, au début du XXIe siècle, des textes qui nous interrogent, qui sont totalement vivants. Alors qu'il faut bien l'avouer, une bonne partie de l'œuvre dite scientifique de Renan est morte. Elle a un intérêt d'archéologie scientifique. Sans parler, par ailleurs, comme il faut le signaler, la qualité stylistique de l'écriture de Renan, qui en fait un des grands écrivains du 19e siècle.
Il faut rappeler que 1870 est une rupture dans l'histoire de France, parce qu'il y a une interrogation sur l'identité nationale, pour reprendre, si je veux dire, le livre de Finkielkraut, qui devient très grave, parce que vous signalez, Perrine Simon-Naoun, tout à l'heure, le poids de l'érudition germanique, Renan apprend très tôt, dès après la sortie du séminaire. Mais c'est vrai que la confrontation intellectuelle, au-delà de la défaite et de la victoire d'un côté et de la défaite de l'autre, est dramatique entre la science allemande et finalement l'absence, je dirais, d'encadrement intellectuel qui a conduit à la défaite et ce qu'on appelle la fête impériale pendant 20 ans, presque 20 ans, 18. Donc à ce moment-là, la réponse de Renan est un peu une réponse avec Fustel de Coulanges à la réponse en face qui est Mommsen, etc. Donc il y a un choix à ce moment-là qui, je crois, Philippe Boutry, dans le réalisme, le choix républicain net, c'est-à-dire que, à savoir que seul, comme vous le disiez, Henri Laurence, dans le cadre de la République, l'intelligence avec la raison peut s'établir avec des forces vives quand même. C'est-à-dire qu'il y a cette extraordinaire contradiction qu'il est assez jésuite vis-à-vis du peuple, disons, pour reprendre le mot, mais qu'en même temps, il a confiance dans le peuple, à la démocratie, le plébiscite de tous les jours. C'est aussi une contradiction, périssimon aoun.
Il a confiance dans le peuple, mais il a confiance dans un peuple qu'on éduquerait.
Oui.
C'est-à-dire ça que correspond c'est ce bien grand à la, texte.
Ça voilà. Correspond à la Troisième République.
Absolument. C'est ce grand texte de la réforme intellectuelle et morale qui montre à la fois comment une nation doit se renouveler tous les jours sur un plébiscite, mais un plébiscite qui est spirituel avant tout, beaucoup moins que politique finalement, et comment il est important donc pour obtenir ce consensus et ce renouvellement de développer dans le peuple, chez les masses, un esprit critique. Et c'est pour ça que Renan va être, d'une certaine façon, l'une des figures majeures des débuts de la Troisième République.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur la Bible, parce que c'est un des grands débats sur lesquels, d'ailleurs, François Laplanche a écrit deux livres admirables. C'est un débat qui agite le monde intellectuel, le monde scientifique, entre conviction, érudition, savoir et approximation, tout au long du XIXe siècle, mais surtout à partir des années 70-80. C'est la question de ce qu'on appelle l'immanence de la Bible, à savoir, en gros, pour résumer, est-ce que les textes sont à prendre au prix de la lettre, est-ce qu'ils sont vraiment inspirés, ou est-ce qu'il y a une historicité de la Bible? Je résume à gros traits quelque chose de beaucoup plus savant, Laurence, mais vous pouvez peut-être compléter.
Ah ben, c'est absolument essentiel, même si, évidemment, il y a déjà des tentatives antérieures. Ce que fait le 19e siècle, c'est de mettre la Bible dans l'histoire. Et en mettant la Bible dans l'histoire, on la sort quelque part de la religion. Ne serait-ce que la dernière grande œuvre de Renan, Histoire du peuple juif, est là pour le dire. Le peuple juif cesse d'être un acteur religieux dans le cadre d'une alliance divine, mais devient un acteur historique, un peuple exceptionnel dans l'histoire, avec évidemment toujours cette ironie renanienne qui fait que il trouverait bien, ben, il est libéral, donc il aimerait que les libéraux l'emportent, mais il faut, pour que le Christ puisse arriver, que le judaïsme devienne une religion spirituelle. Là, il dit je serais plutôt du côté de Jézabel, mais en fait il faut être du côté des prophètes, même si les prophètes sont intolérants. Parce que quelque part, la providence nous conduit vers Jésus, puisque Jésus est toujours l'élément central de sa pensée.
Oui, dans ses études de la Bible, Renan fait quelque chose d'absolument essentiel, me semble-t-il, et que met bien en lumière le colloque qui s'est tenu, c'est-à-dire de remettre le religieux au centre de la vie politique et de la vie intellectuelle du XIXe siècle français. Et c'est pour ça que, si vous voulez, c'est ce qui explique sa longévité scientifique, en quelque sorte. Et le religieux passe, pour lui, évidemment par l'étude des textes sacrés et par les incarnations successives, donc soit de différentes figures, soit de différents peuples. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre dans son œuvre comment finalement l'histoire des origines du christianisme et la vie de Jésus en premier arrivent chronologiquement avant l'histoire du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le sens de l'histoire chez Renan n'est pas une causalité historique, historique positiviste, encore une fois, c'est une causalité du sens. C'est une histoire noétique, c'est une histoire qui montre le développement de l'esprit humain. Et donc, les relations sont celles qui se calquent, je dirais, entre dont le modèle est établi par sa philosophie du langage, par le développement des langues, par la succession des langues, qui devient à la fois la succession des cultures, la succession des civilisations et également la succession des religions.
Philippe Boutry.
Oui, je crois que, en effet, chez Renan, cette centralité de la figure de Jésus construit, en effet, cet itinéraire réflexif que Perrine Simon-Nahum vient de rappeler. Peut-être faut-il encore introduire un autre terme qui est la Grèce. Chez Renan, on trouve également une expression extrêmement nette, notamment dans les volumes qui suivent la vie de Jésus, de cette tension entre culture grecque et culture qu'il dit sémite, mais je crois qu'il faut prendre ce mot d'une manière extrêmement neutre parce que sa réflexion porte sur le langage, Renan n'étant rien un antisémite. Par contre, il est extrêmement sensible à l'expression et à la formulation grecque de la raison dans laquelle il voit peut-être pas un antidote, car sa pensée est extrêmement subtile sur ce point, mais en tout cas une autre pente des progrès de l'esprit humain, et il va nouer tout ceci, on le sait, dans un texte tout à fait extraordinaire qui parle à la fois des Celtes, des Juifs et des Grecs, la prière sur l'Acropole.
Texte qui est précédé par la mission de Phénicie, puisque c'est au moment de la rédaction de son œuvre, grande œuvre archéologique, la mission de Phénicie, qui découvre progressivement ces miracles grecs qu'on voit d'ailleurs dans la mission de Phénicie, à faire à mesure qu'on progresse dans le livre, parce qu'il met 10 ans pour la rédiger, les changements de perspective dans l'œuvre de Renan. Mais enfin, il y a un peu d'hypocrisie chez Renan, je veux dire. Il va faire tous les compliments pour expliquer le miracle grec, le génie grec, etc., mais ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ses mythes. Il va y consacrer sa vie. Il fera pas d'études de textes grecs. Il fera pas d'épigraphie grecque ou très très peu. C'est l'épigraphie sémitique. Alors il dira par coquetterie que sa plus grande œuvre, c'est le corpus des inscriptions sémitiques.
Oui, je suis absolument ravie d'entendre les paroles d'Henri Laurence parce que, effectivement, l'une des tares majeures dont on affectait Renan était cet antisémitisme. Et ce qui est important de souligner, c'est quand on explique sa philosophie de l'histoire à partir d'une philosophie des langues, ce que rappelait tout à l'heure Philippe Boutry, à savoir le fait que Arien et Sémite ne fonctionnent pas du tout comme un couple qui renverrait à quelque chose qui existe positivement dans la nature des races, même si Renan emploie le mot race, mais c'était un mot qu'on employait à l'époque, hein, jusqu'à la fin du 19e siècle, sans aucune connotation de celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais pour Renan, Arien et Sémite sont vraiment des idéotypes. C'est-à-dire que ce sont des modèles qui sont d'abord des modèles de langue et dont il dit lui-même d'ailleurs qu'ils n'ont aucune expression dans la nature. Hein, on ne peut absolument pas les essentialiser. Donc je crois que faire passer cette idée de Renan comme très très éloigné de l'antisémitisme, effectivement ce que dit Henri est tout à fait juste, c'est-à-dire que comment un homme qui trouverait que les Sémites sont tellement inintéressants et inférieurs comme civilisation y aurait consacré sa vie ? Je veux dire, il y aurait là le plus grand paradoxe ou la plus grande contradiction chez Renan.
Philippe Boutry.
Oui, un point obscur demeure cependant chez Renan, c'est son rapport à l'islam. Car Renan
Étudie pourtant l'avéroïsme.
Qui publie l'avéroïsme, qui connaît relativement bien le monde musulman, qui y a vécu, et qui manifeste, je me suis toujours demandé si ce n'était pas par rapport à une théorie du progrès des religions, une relative méconnaissance et une relative incompréhension, teintée parfois d'un peu d'hostilité vis-à-vis de l'islam, non pas de l'islam de son temps d'ailleurs, mais de l'origine même de la religion musulmane qui compose dans son paysage personnel l'autre versant du sémitisme.
Alors on lui a reproché dans une communication très intéressante, faiblesse et force de Roban. Il faut peut-être aussi signaler les faiblesses, parce qu'après tout, nous sommes en train de dresser un nouveau monument à Renan. Pourquoi pas? Le fait qu'il n'était pas très bon, si j'ose dire, comme on dirait pour un écolier, sur le Moyen-Âge. Je vous protestez, si Périne Simonaoui.
Écoutez, il ne s'agit pas de...
Et sur la scolastique, parce que c'est autre chose, ça.
Oui, mais il a une interprétation de la scolastique qui, alors là, est vraiment issue du milieu saint-sulpicien, de son éducation oratorienne, de Bérulle, et toute son interprétation du Moyen-Âge. J'ai édité un manuscrit dont Pierre Vidal-Naquet, à qui il faut rendre hommage ici, parce que c'était un grand renanien, avait retrouvé l'existence dans la bibliothèque de l'Institut, donc un manuscrit inédit sur l'étude de la langue grecque en Occident du 5e au 14e siècle. Je veux dire, le Moyen-Âge de Renan est d'abord un Moyen-Âge extrêmement évolué. C'est un Moyen-Âge où se passent déjà plusieurs révolutions, notamment au IXe siècle, la révolution carolingienne, et il a été quand même l'un des premiers à le montrer. Ensuite, c'est un Moyen-Âge dans lequel il combat l'Église en prenant le parti du grec, si je puis dire, contre le latin. Donc c'est un Moyen-Âge assez biaisé, comme toujours d'ailleurs le Moyen-Âge dans cette première partie du XIXe siècle. Je crois que là, il y a vraiment un parti pris. C'est son premier grand manuscrit. C'est un manuscrit qu'il fait pour l'Institut en 1847. Et là, il y a vraiment, on sent l'oratorien contre les jésuites.
Tout à fait. Mais alors, il y a quand même une contradiction à nouveau. Au fond, je suis la ligne de pente de Philippe Boutry depuis le début de l'émission, à savoir que Renan préfère les latins. Le septième tome de l'histoire du christianisme finit quand même sur Marc Aurèle, donc ce n'est pas rien. Et en même temps, vous dites qu'au Moyen-Âge, il privilégie dans la science qu'il en a, de certains grands philosophes comme Conan Scott, etc., ou Guillaume de Cap, il privilégie les Grecs. Alors je dirais, il faudrait savoir, si j'ose dire, où va sa préférence. Et ce n'est pas des préférences qui relèvent de ses choix successifs ou des opportunités qu'il a d'étudier les divers moments de l'histoire du christianisme à travers le langage. Et peut-être, je dirais, la définition de ce qu'est le rapport entre la religion et la foi. Père Simon Aoun.
Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en 1848, l'urgence, c'est le combat contre l'Église. C'est le moment où il vient de quitter le séminaire, 3 ans auparavant. Dans les œuvres ultérieures, son schéma historique va se dessiner progressivement et accorder au christianisme une place et un rôle différent.
Henri Laurence.
Oui, pour revenir... Le fait racial, pour lui, est un fait d'origine. C'est à la fois un idéal type, d'où d'ailleurs des contradictions compliquées dans ces histoires de peuples sémitiques, mais c'est un fait d'origine. Et il y a un sens de l'histoire qui est la dégradation progressive du fait d'origine par ce qu'on appellerait aujourd'hui le métissage. Ce n'est pas le terme qu'il utilise, lui, mais qui prend deux formes, en quelque sorte. La civilisation est contraire à la race. La civilisation est une machine à détruire les races, à détruire ses faits d'origine pour faire des faits mixtes. Et la nation est la même chose. La nation, c'est l'antirace. Et là, on a aussi le débat avec l'Allemagne, puisque après 1870... l'Allemagne est pensée en tant que race, et la France réplique en se pensant en tant que nation. Mais on a déjà ça dans les correspondances en 1856. C'est sa réaction à Gobineau. Quand Gobineau lui envoie l'essai sur l'inégalité
des
races humaines, il lui dit « mais attention, ce serait bien pour des Allemands, mais pas pour des Français. Heureusement que nous sommes une nation et pas une race. »
Oui, tout à fait dans le même sens. Je crois qu'on n'insiste pas assez sur le libéralisme de Renan et sur le fait que cette évolution libérale va en quelque sorte nourrir son itinéraire scientifique et son itinéraire politique. Si la race n'est pas une nation, c'est qu'une nation ne repose ni sur le droit du sol, ni sur le droit du sang, encore moins pour Renan, mais sur l'adhésion libre de citoyens libres, un plébiscite, même si le mot a pris un sens un peu dégradé aujourd'hui. aujourd'hui, c'est un référendum. C'est-à-dire que ce sont des individus qui adhèrent à une opinion et à une croyance. Et je pense que de ce point de vue-là, dans le processus qu'on appelle d'individuation de la foi, c'est-à-dire de constitution de croyances comme des opinions religieuses, Renan, par son itinéraire personnel, mais aussi par la conception qu'il se fait des progrès de l'esprit humain, fait du libéralisme et de la nation telle qu'il l'entend une voie pour le futur d'humanité.
Oui, alors le libéralisme, par exemple, pour lui, dans sa jeunesse, le libéralisme, c'était l'Allemagne. Et à faire à mesure que l'Allemagne s'éloigne... le libéralisme devient plus français en quelque sorte. Mais il a quelque part une phrase extraordinaire à la fin. Il dit les seuls libéraux allemands, les seuls vrais allemands, ce sont les juifs allemands. Parce que le reste de l'Allemagne est en train de trahir le libéralisme.
Mais c'est une formule qui d'ailleurs est adéquate, je trouve. C'est pas... D'ailleurs, c'est un des drames de l'entre-deux-guerres. Bon, ça
et ces là-dessus. Juifs allemands étaient d'ailleurs les correspondants de Renan, puisque il faut aussi dire que Renan a pu produire tous ses travaux parce qu'il avait autour de lui, il était au centre d'un réseau qu'il avait d'ailleurs patiemment et d'une certaine façon scientifiquement tissé, mais que c'était l'un des seuls savants français à correspondre avec les savants allemands, même si quelquefois ceux-ci étaient très critiques par rapport à son œuvre, et qu'il avait en France, donc comme relais de l'Allemagne, tous les savants de l'orientalisme que vous connaissez bien, Henri, qui ont donc fondé cette science du judaïsme français et qui se sont fait donc les passeurs de la science allemande vers la France, et sur lesquels Renan s'est largement appuyé, dont son successeur, d'ailleurs au Collège de France, Salomon Munk.
Oui, je voudrais dire deux choses par rapport à ce qu'a dit Philippe Boutry sur référendum et plébiscite. Je crois que la différence, c'est que le référendum est une consultation sur une loi. Le plébiscite, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le critique tellement, enfin, le fameux plébiscite de 1869, c'est un enthousiasme, forcément. C'est une vérification de ce qu'est, je dirais, la température de l'opinion publique ou du peuple dans une démocratie vivante. Donc c'est la grande différence. Et le plébiscite, j'aurais fait appel chez Renan au sentiment. C'est-à-dire, le référendum, c'est quelque chose de très carré. Je vous réponds.
C'est la question de l'oubli. Dans la définition de la nation chez Renan, il y a avoir une histoire commune, avoir une volonté d'être ensemble quotidienne, mais avoir aussi une capacité d'oubli.
Tout à fait. Alors, il faut aussi dire, c'est ce que je voulais dire, qu'au 19e siècle jusqu'en 70, il y a cet extraordinaire système de correspondance entre les grands savants, qui s'appelle, je crois, l'Institut archéologique, qui éclate en 70, et qui donne naissance aux écoles d'archéologie, d'histoire, etc., dans les différents pays. C'est comme ça que naît l'École française de Rome, en particulier, parce qu'il est bien question de faire chacun sa part de ce qu'est le patrimoine commun de l'humanité sur Rome, donc l'École française d'Europe, sur la Grèce, donc l'École française d'Athènes, qui était antécédente, et sur l'Égypte, ensuite.
Sur l'Égypte, au moment de la création de ce qui va devenir l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, il va insister pour qu'il y ait des postes consacrés à l'étude de l'islam. Alors qu'on aurait pu penser en 1880, au moment où on crée les FAO, qu'on s'intéresserait exclusivement à l'égyptologie. Et Renan insiste et obtient qu'il y ait une branche islamologique au Caire.
Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que justement pour lui, l'histoire des religions, c'est ce qui conduit l'histoire, c'est ce qui permet de comprendre le passé.
Et en même temps, le socialisme est une forme de religion.
Alors je voudrais qu'on termine, pour compléter la figure de Renan, qu'on a pris, si j'ose dire, à Tréguier et qu'on laisse au Collège de France, sur les voyages. Parce que, alors vous citez, je ne sais pas vous, Henri Laurence, en tout cas, je crois que c'est Corinne Bonnet, la femme de Lévi-Strauss qui dit que le voyage est une duperie. Parce qu'au fond, c'est qu'en réalité, on cherche des choses qui ont disparu et on les reconstitue. C'est donc une formidable fécondation de l'imaginaire. En même temps, c'est forcément une déception. Et entre-temps, effectivement, il y a ce qu'on peut appeler l'oubli et la reconstitution archéologique de sa propre histoire, de l'histoire de l'histoire. Donc, il voyage beaucoup. Il va jusqu'en Inde, ce qui est assez étonnant, parce qu'à l'époque, c'est pas commode de voyager. Je veux dire que ça suppose une santé qu'il n'a pas, d'ailleurs. Et c'est une curiosité qui, pour un savant, est assez rare à l'époque.
Il y a une grande tradition quand même en France des voyages, des voyages en Palestine et des voyageurs.
Chateaubriand.
Absolument. Ce qui est très intéressant et très touchant chez Renan, c'est qu'il ne fait pas que passer. C'est-à-dire qu'effectivement, il séjourne dans les différents pays qu'il visite et il s'en imprègne d'une certaine façon, il s'en imprègne même d'un point de vue stylistique. Il y avait au colloque la présence du descendant de celui qui au Liban, enfin Henri y a été, je n'y ai pas été, mais avait donc la villa où Renan a séjourné et où est morte sa sœur Henriette. Et la famille donc libanaise qui a conservé la villa a pieusement conservé le tombeau d'Henriette et continue de l'entretenir. Donc il y a, si vous voulez, chez Renan, toute une nourriture intellectuelle qu'il retire de ses voyages. On connaît tous les passages de la vie de Jésus sur le cinquième évangile, sur le séjour en Galilée, et qui nous ramènerait peut-être donc au premier Renan, au Renan breton, au Renan qui parcourait comme ça les landes bretonnes et les falaises et trouvait son imaginaire, nourrissait son imaginaire à partir de ces légendes nées de ces paysages.
L'homme des textes, c'est aussi l'homme des paysages. Alors c'est plus compréhensible pour le 19e siècle que pour aujourd'hui, parce que nos pauvres paysages méditerranéens ont tellement souffert, bétonnés, etc. Mais il avait la conviction qu'en faisant la tournée de la Méditerranée orientale en plusieurs voyages, il avait un mode de communication avec le passé presque équivalent aux textes qui, par ailleurs, il déchiffrait.
Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais, pour conclure, combiner une phrase de Pierre Larousse et un jugement de Pie IX. Pierre Larousse dit « Renan penseur, il n'aura rendu que de très médiocres services à la libre pensée ». Ce qui est quand même un paradoxe, parce que la libre pensée, d'ailleurs, ce n'est pas exactement ce qui est le cas de Renan. C'est-à-dire qu'on l'a assez marqué, il y a tout à fait autre chose. D'ailleurs, quelqu'un dit de Renan « c'est un géomètre, ce n'est pas un logicien ». Bon, c'est très important. Et Pie IX disait que c'était un blasphémateur de Dieu. Je pense que, voilà, on l'a comparé, dit Gabriel Mounot, à Voltaire, parce que Voltaire, comme lui, était représentant de sorcier, etc. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, on ne peut pas dire qu'il soit inclassable, mais alors, je ne sais plus qui j'ai cherché avant de constituer cette émission, a dit que Renan avait été à la civilisation et au 19e siècle, et à la science et à l'Église, indispensable. Et je pense que c'est le seul mot qui convienne pour essayer de résumer ce magnifique colloque, qui s'appelle donc Ernest Renan, la science, la religion, la République. C'était les lundis de l'histoire, présenté aujourd'hui par Philippe Levillain, avec Henri Laurence, autour du colloque Ernest Renan, la science, la religion, la République, colloque du Collège de France de 2012, Péril Simon Naoun et Philippe Boutry. Le texte a été lu par Jean-Pierre Leroux, la prise de son est de Olivier Dupré, la réalisation de Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire sont représentés par Jacques Le Goff, et maintenant, c'est pas la peine de crier, par Marie Richeux.